En redressement judiciaire, le tribunal de commerce d'Amiens a décidé de placer les tissages de Picardie en observation pendant 6 mois. Un administrateur judiciaire va être nommé. Nous partons dans un instant à la Bourse de Paris.
La Bourse, avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
Tendance à la hausse, Vincent Bezeau à la Bourse.
Effectivement, Claire, la Bourse de Paris reste dans le vert en ce début d'après-midi, mais le CAC 40 qui a touché en matinée un nouveau record annuel à 4620 points a un peu réduit ses gains puisqu'il ne s'adjuge plus que 0,45% à 4599 points. Le tout dans des volumes de 1,7 milliard d'euros. Les investisseurs inclinent en effet à une relative prudence avant la publication à 14h30 des revenus et dépenses des ménages américains du mois d'août. Sur le marché des changes, l'euro s'établit à 1,2054 sur le marché de l'or. À Londres, l'once de métal fin se négocie contre 473,40 $. Le CAC 40, lui, progresse maintenant de 0,45% à 4599 points à la Bourse de Paris. Vincent Bezeau pour France Inter.
Merci Vincent. Vous écoutez France Inter. Il est très précisément 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet.
Bonjour. Aujourd'hui, 30 septembre 1955, il y a 50 ans jour pour jour, la mort de James Dean. James Dean incarnait une lutte éternelle, celle de la jeunesse contre la vieillesse. Et cette lutte reflétait les aspirations d'une génération dévorée par la fureur de vie. Andy Warhol. D'histoire. Au royaume des stars, James Dean fut une étoile filante. Il ne lui aura fallu que 3 films pour devenir en 16 mois à peine un des acteurs les plus célèbres de l'histoire du cinéma. S'il n'était pas mort à 160 à l'heure au volant de sa Porsche il y a 50 ans, quelque part en Californie entre Los Angeles et Salinas, il aurait aujourd'hui 74 ans, sans doute quelques kilos de trop, un crâne chauve et un double menton. Il aurait même peut-être oublié que dans « À l'Est d'Éden », « La fureur de vivre » ou dans « Géant », il avait incarné avant tout le monde l'éternel désarroi d'une jeunesse révoltée, rongée par le doute et le mal de vivre. Si la mort, comme le disait Malraux, transforme la vie en destin, celle de James Dean, le 30 septembre 1955, l'avait transformée en mythe.
La carrière de James Dean fut la plus spectaculaire mais la plus courte de l'histoire d'Hollywood. Moins de 2 semaines après le tournage de son 3e film, James Dean était mort, victime d'un accident de voiture. Il avait 24 ans. J'ai reçu un appel à 17h59. L'accident a eu lieu sur l'autoroute 466 à l'intersection de la 41. Vendredi 30 septembre 1955. Les véhicules se sont heurtés de plein fouet. On déplore 2 blessés et 1 mort. La personne décédée est James Byron Dean. Il était mort à son arrivée à l'hôpital.
The dead was James Byron Dean, DOA, or dead on arrival at the hospital.
Jean-Philippe Guérand, bonjour.
Bonjour.
C'était il y a 50 ans, jour pour jour, l'annonce de la mort de James Dean, le 30 septembre 1955, une mort qui a provoqué de véritables scènes d'hystérie aux États-Unis, alors que quelques mois plus tôt, personne, ni en Amérique, ni ailleurs, ne connaissait même le nom de James Dean. Vous le rappelez dans un livre qui sortira bientôt chez Gallimard. Une des choses, au fond, qui est à l'origine du mythe de James Dean, c'est la brièveté de sa carrière et cette mort 6 mois à peine après son premier grand succès à l'Est d'Éden.
Oui, c'est absolument incroyable et c'est ce que vous disiez, c'est ce qui fait de James Dean un mythe, c'est qu'il ça s'est arrêté aussi vite que ça avait commencé, on pourrait dire. Et surtout, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'un seul de ses films était sorti aux États-Unis au moment de sa mort et aucun de ses films n'était sorti en Europe au moment de sa mort.
C'est pour ça que personne n'en parlait. D'ailleurs,
absolument.
On cherchait des archives qui évoquaient sa mort en 55, il y a rien. Alors, il avait 24 ans aussi, ça a beaucoup compté. Il était né, il faut le rappeler, en 1931. dans l'Indiana, dans un milieu familial qui l'a beaucoup marqué, Jean-Philippe Guérand.
Oui, alors James Dean est né dans une petite ville, effectivement, dans un, la province américaine. C'est un enfant de la province, et c'est vrai qu'il a été élevé au départ beaucoup par sa mère. Je dirais même il a été choyé par sa mère, qui a essayé de développer ses compétences artistiques quand il était tout petit.
Son père s'en occupe à peine. Le père, c'est très frappant, ressemble énormément au père qu'il a eu dans le rôle de Cal dans À l'Est d'Éden, c'est-à-dire un père froid, distant, qui n'aime pas son fils, en fait, on a le sentiment.
Mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'abord, il a perdu sa mère très jeune, or c'est sa mère qui s'est beaucoup occupée de lui. Le jour où sa mère est morte, son père a décidé de le confier à sa sœur et à la famille de sa sœur, et à partir de ce moment-là n'a plus vu que de très lointainement son fils. Et donc il y a eu une espèce de recherche, une quête d'amour de James Dean pour son père, qui s'est finalement heurté à un mur et qui s'est traduit dans ses rôles, parce qu'il a même le rôle dans la Fureur de vivre. C'est un peu comme vous disiez, la jeunesse contre les adultes.
La mort de sa mère, elle avait 29 ans, c'était en 1940, ça l'a profondément marqué. D'abord parce que sa mère l'avait vraiment initié, lui avait donné le goût des arts, de la peinture, de la lecture. D'ailleurs, c'est elle qui lui avait donné son deuxième prénom. Il s'appelait James Byron Dean.
Oui, parce que sa mère, qui était, elle, issue d'un milieu, je dirais, rural, où elle n'avait pas fait du tout d'études et tout ça, elle travaillait comme femme de ménage, elle a fait mille métiers, puis elle a dû arrêter pour des raisons de santé. Et en fait, en revanche, elle avait une passion dévorante pour la poésie romantique anglaise, et elle a essayé de transmettre à son fils ça, de même qu'elle a essayé de lui faire donner des cours de violon aussi, et que quand elle est morte, il a voulu qu'elle soit enterrée avec son violon.
Alors c'est un déchirement pour lui, il a 9 ans hein, quand elle est morte. On dit même d'ailleurs que dans le train qui ramenait le corps de sa mère de Californie, où la famille avait déménagé, jusque dans l'Indiana où il était né, il s'arrêtait à toutes les stations pour voir si le cercueil de sa mère était bien là.
Oui, je crois que ce premier rapport avec la mort, en fait, a défini tout le personnage par la suite, parce qu'après on l'a défini comme quelqu'un d'assez solitaire, même quelquefois qu'il avait des tendances morbides. On disait que chez lui il avait une petite guillotine dont il s'arrangeait pour que l'ombre se projette sur les murs, et quand ses invités venaient, ils étaient assez impressionnés. Donc il a toujours eu un goût pour la mort.
Alors, il va d'abord passer 9 ans dans une famille d'adoption, c'est-à-dire en fait chez son oncle et sa tante, dans une ferme. Il découvre, à 16 ans, alors qu'il est encore là-bas, il découvre le théâtre, il sera même directeur du club de théâtre de son lycée. Puis il repart une fois l'équivalent de son baccalauréat passé, il rentre en Californie près de son père qui l'héberge, mais là les rapports sont assez distants. Son père qui aurait préféré d'ailleurs qu'il fasse autre chose que d'être comédien, qu'il l'envoie, je crois, à l'université de Californie, Los Angeles, UCLA, où d'ailleurs il va continuer à faire du théâtre.
Oui, c'est-à-dire que son père, qui était mécanicien dentiste, voulait que son fils ait un bon métier. Il voulait qu'il ait une formation et quelque chose qui lui rapporte de l'argent, et le fait d'être comédien, c'était pour lui quelque chose d'extravagant. Et donc ils ont rompu en fait au moment où James a décidé de devenir comédien malgré la volonté de son père.
Alors il continue justement de suivre des cours de dramatique. On va même le voir apparaître à la télévision, d'abord dans une publicité pour Pepsi Cola, et puis dans le rôle de l'apôtre Jean dans un feuilleton télévisé. C'était la première fois qu'on entendait la voix de James Dean le 25 mars 1951.
Yes, I was there. And later on, gathered the fragments left by the 5,000.
Yes, there was a great throng.
Surely we did not spend 3 years following the Master, to return again to our nets. Was it for this the Master sent us out to cure the sick, cast out devils?
Et c'était la première apparition de James Dean sur un écran, un extrait très court. D'ailleurs, on n'a pas traduit, mais il joue le rôle de l'apôtre Jean. La télévision, à l'époque, ça comptait pas. Ce qui comptait, c'était la radio. Il n'y avait pas beaucoup, même en Amérique, il n'y avait pas beaucoup de télévision. Mais c'est la première fois, c'est la plus vieille archive de la voix de James Dean dont on dispose.
Tout à fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que le jour où il a tourné ce téléfilm, enfin, cette dramatique télévisée, il était enrhumé. Et quand on fait attention, il a une voix, effectivement, en plus particulière, parce qu'il était très enrhumé.
Alors donc, la télévision, la radio, il va commencer à travailler pas mal pour la radio, ça comptait plus à l'époque, alors en France bien sûr, mais même aux États-Unis. Et puis alors, c'est à cette occasion qu'il rencontre quand même quelqu'un s'appelle Rogers Brackett, qu'il a rencontré en 1951, qui est un publicitaire et producteur de radio, dont vous parlez dans votre livre, Jean-Philippe Guérand, mais dont on a très peu parlé jusqu'à ces 10 dernières années, tout simplement pour une bonne raison, c'est parce que Brackett était homosexuel et Dean était son amant. Alors l'homosexualité de James Dean, finalement, on n'en savait pas grand-chose.
On n'en savait pas grand-chose, de même qu'on ne savait pas grand-chose avant que Rock Hudson annonce qu'il avait le sida, de son homosexualité, ni même de celle de Cary Grant. Je crois que ça, c'est des tabous qui ont été beaucoup enterrés par Hollywood à l'époque, parce qu'on pensait que l'homosexualité était quelque chose de pernicieux, de dangereux. Faut aussi savoir que c'était une époque où le code AIDS régnait au cinéma, c'est-à-dire que la censure était très très vigilante, et que quand La Fureur de Vivre a été tournée, notamment, la censure a surveillé de très près le film. Et donc l'homosexualité, c'était quelque chose qui était vraiment pas concevable pour un acteur de renom.
Et pourtant, il s'affichait avec Brackett, qui était un homosexuel notoire. Je crois même qu'il a échappé au service militaire en disant « Non, je ne peux pas le faire, je suis homosexuel ».
Oui, alors surtout, ce qui s'est passé, c'est que Brackett l'a beaucoup aidé à la fois à trouver ses premiers rôles et puis éventuellement aussi à ne pas faire son service militaire.
Alors c'est Brackett qui va le pousser à partir vers New York. À New York, il va y passer alors quelques années de galère, je crois à peu près 3 ans. Il y arrive en 1951 et on oublie qu'avant de devenir l'immense vedette qu'il a pu devenir, vraiment, il cherche partout des petits rôles dans des films de série B, au théâtre, etc. C'est vraiment une vie d'errance qu'il mène à New York et tout à fait seul, Jean-Philippe Guérand.
Mais c'est vrai que je crois que c'était le lot des jeunes comédiens à l'époque, et à l'époque d'ailleurs il a fait connaissance de tas de comédiens qui allaient devenir également célèbres, comme Steve McQueen, comme Paul Newman, comme Martin Landau, qui est devenu un de ses meilleurs amis. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour être comédien, il fallait courir le cachet, c'est-à-dire qu'il fallait passer des heures et des heures à attendre dans des files d'attente, d'être reçu par des gens qui vous auditionnaient et qui ne vous répondaient et qui ne vous rappelaient en général jamais. Donc il a postulé à des quantités de rôles, à des quantités de films, et donc pendant ce temps-là, pendant cette longue période d'errance, évidemment, il n'avait pas d'argent non plus. Donc en fait, il passait son temps à rôder dans les rues, à traîner, à regarder les gens. Et il a raconté à une époque qu'il s'était beaucoup enrichi sur le plan humain à cette époque-là.
Oui, il s'enrichit aussi en lisant. J'ai découvert en vous lisant une chose curieuse, Jean-Philippe Guérand, c'est que son livre de chevet, celui qu'il préférait, c'était un auteur français, c'était tout simplement Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi dans ce cas, c'est qu'il voulait, son rêve était de réaliser un film d'après Le Petit Prince. Il voulait même jouer le rôle, ce qui était de l'aviateur, ce qui était assez étonnant. Et surtout, Saint-Exupéry, c'est typiquement un auteur que lui a fait découvrir Rogers Brackett, qui a beaucoup contribué à sa culture. En lui disant quel film aller voir, quel livre lire, quel peintre aller admirer dans des expositions.
Quel film aller voir, justement, à New York, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il hante les salles de cinéma, et il va surtout voir, et même plusieurs fois, les films, il va y en avoir beaucoup, parce que Marlon Brando était jeune, mais de la seule personne qu'il ait vraiment admiré dans ce métier, et qu'il ait considéré comme son modèle, c'était Marlon Brando.
Mais c'est-à-dire que je crois que quand il a vu, effectivement, Marlon Brando sur un écran, il a eu un choc, et il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, il a commencé à calquer son attitude sur celle de Marlon Brando, au point qu'un jour, il a fini par rencontrer Marlon Brando, que la rencontre restée assez froide, parce que Marlon Brando était un peu mal à l'aise de voir cet homme qu'il admirait, et qui en plus avait essayé à une époque de le joindre par téléphone. Il avait réussi à se procurer le numéro de téléphone de Marlon Brando, et il le harcelait littéralement de coups de fil. Et donc Marlon Brando était au fait de cet admirateur qui voulait absolument le rencontrer.
Alors admirateur qui a aussi une autre passion, hein, c'est la photographie.
Oui, alors la photographie, ça vient de la ville de New York en grande partie. C'est vrai qu'on est, à force de se promener dans les rues de New York, il a été fasciné par ce qu'il y voyait, et qu'à un moment donné, quand il a commencé à avoir un petit peu plus de moyens, d'abord il a rencontré des photographes, au hasard aussi des tournages de télévision, des pièces de théâtre qu'il a interprétées. Et là, à ce moment-là, il a commencé à être fasciné par le fait de prendre des photos. Parce que lui était pris en photo, et au point que quand on faisait des séances de photos avec lui, il les mettait en scène.
Alors New York, s'il y est, c'est évidemment pour une bonne raison, et pas seulement le cinéma, la photo, c'est parce qu'il y a l'Actor Studio, la pépinière de tous les grands comédiens de ces années-là. Et justement, l'Actor Studio, il va rentrer, Jean-Philippe Guérand.
Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il était à Los Angeles, il a suivi les cours d'un atelier de théâtre qui était dirigé par un comédien qui s'appelle James Whitmore, qui est l'homme qui lui a dit qu'il fallait absolument qu'il aille à New York, qu'il n'y avait pas d'autre alternative, que c'était à New York qu'il pourrait réussir et qu'il fallait qu'il essaye d'intégrer l'Actor Studio. Et là, il a réussi à intégrer l'Actor Studio, et surtout, il a été le premier de sa promotion et le plus jeune élève jamais admis à l'Actor Studio à l'époque.
élève du redoutable Lee Strasberg. Alors, il paraît que il s'est disputé avec lui, qu'il a même claqué la porte, il détestait être dirigé, il a foutu le camp un jour, l'acteur studio. C'était un personnage, quand on vous lit, qui est assez surprenant. Quand on le voit, il a une tête angélique, très douce, etc. Il pouvait être odieux sur un plateau.
Il était apparemment pétri d'orgueil, et il avait besoin, surtout, il avait besoin, comme beaucoup de comédiens, et je pense qu'effectivement, des comédiens qui ont galéré pendant des mois et des mois, ont besoin de la reconnaissance de leur père. Et le fait d'être dans une école de théâtre dirigée par quelqu'un d'aussi prestigieux que Lee Strasberg, devant lequel il a joué plusieurs fois, et une fois il a joué devant lui, et l'autre l'a effectivement a détruit en trois phrases toute sa prestation, et ça, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre, mais en même temps, ça l'a aussi forgé.
Il était complètement imprévisible, incontrôlable. C'est un personnage étonnant quand on vous lit. Alors, il parvient surtout à jouer, à décrocher un rôle dans deux pièces de théâtre qui vont vraiment le révéler. Si The Jaguar et L'Immoraliste de Gide. D'ailleurs, il joue un rôle assez ambigu, puisqu'il joue le rôle, je crois, d'un domestique arabe qui fait chanter son patron en le menaçant de révéler qu'il est homosexuel. C'est assez extraordinaire. Et alors là, il est remarqué par Elia Kazan.
Oui, parce qu'Elia Kazan avait entendu parler de lui par l'acteur studio, et l'homme qui a écrit le scénario d'Alès d'Éden, un jour est allé voir au théâtre James Dean, et il était en train de travailler sur ce scénario, il a appelé Elia Kazan et il lui a dit « j'ai vu l'acteur qui doit jouer ce rôle ». Et Elia Kazan était d'abord un peu réticent parce qu'il connaissait l'attitude de James Dean telle qu'il l'avait vu faire à l'acteur studio, et finalement il a accepté quand même de le recevoir, et à partir de là, tout s'est embrayé.
Et oui, il va devenir, et d'ailleurs il était en compétition avec Paul Newman, Kazan a un peu hésité entre les deux, et il choisit donc James Dean pour jouer le rôle de Cal, donc dans ce film d'Elia Kazan à l'Est d'Éden, d'après un roman de Steinbeck, et le premier grand succès au cinéma de James Dean, dont la première, très attendue, sera Broadway le 10 mars 1955, 6 mois à peine avant la mort de James Dean.
From the heart of Broadway, the entertainment capital of the world, where hundreds of spectators are excitedly awaiting the arrival of the stars, Warner Brothers present the world premiere of the motion picture everyone is clamoring to see, Elia Kazan's explosive production of John Steinbeck's greatest book, East of Eden, in CinemaScope and Warner Color. Starring Julie Harris, the most talked about young actor of the day, James Dean.
Well, I made it, and it's for you. It's all the money you lost on the lettuce.
Cal, you will have to give it back.
No, I made it for you, Dad. I want you to have it.
If you want to give me a present, give me a good life. That's something I could value. Cal!
Et c'est la scène la plus connue, la plus émouvante aussi d'À l'Est d'Éden, le moment où James Dean, dans le rôle de Cal, est repoussé par son père auquel il veut donner de l'argent parce que son père est en difficulté. Et là, il s'effondre en larmes. C'est extraordinaire. En plus, je suppose qu'il pensait à son propre père quand il a joué ça. Mais c'est extraordinaire, ce film.
Mais c'est évident. Mais de toute façon, il est clair qu'en prenant James Dean pour ce film, Elia Kazan, quelque part, a fait sa psychanalyse. C'est assez étonnant parce qu'il l'a quand même mis dans un rôle qui était très proche de ce qu'il avait vécu. Et un jour d'ailleurs, Elia Kazan a rencontré le père de James Dean et il a été effaré par leur relation. Et il a été effaré par ce que représentait cet homme. Et il a d'ailleurs écrit dans ses mémoires que cet homme, pour lui, ne représentait rien.
Mais
Kazan
était assez vicieux quand même, parce qu'il entretenait, au fond, il préparait psychologiquement James Dean à ce rôle. Il a poussé James Dean à rester habiter avec son père pendant le tournage du film. Il a entretenu de très mauvais rapports, parce que c'est une histoire, il faut le rappeler, de deux frères qui se partagent l'amour d'un père, ou plutôt d'ailleurs, il y en a un qui le reçoit. C'est un peu Cain et Abel, en définitive. Et donc, l'acteur qui joue le rôle de l'autre frère vivait aussi avec Dean. Ils se sont engueulés et au fond, ils se sont presque mis en condition pour jouer ce film avec un naturel extraordinaire, aussi bien les deux frères que le père. Et la mère aussi. La mère qui est absente, qui n'est pas là, qui est partie et que le fils recherche. Il joue sa vie en quelque sorte, James Dean, son adolescence.
Tout à fait, mais en plus, c'est vraiment la méthode de l'acteur studio dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que c'est le principe de la mise en condition de faire que les comédiens puissent rattacher chaque aspect de leur rôle à quelque chose qu'ils ont vécu. Et donc là, il est arrivé à un point absolu, parce que c'est l'identification parfaite.
Alors c'est un triomphe complet, un cachet aussi avec lequel James Dean va commencer à acheter une moto, puis une voiture. Il avait la passion. Et nous sommes à 6 mois de sa mort. Hein. La passion de la vitesse, il tourne 2 autres films, peut-être plus symboliques encore, plus importants que à l'Est d'Éden, c'est La Fureur de Vivre, avec cette course où justement poursuite au bord d'une falaise. Il tourne Géant, il ne verra aucun de ces deux films, puisque justement, il va mourir avant leur sortie au mois d'octobre. Il meurt le 30 septembre, et quelques jours après, il va se tuer en voiture, quelques jours à peine après avoir accordé cette incroyable interview. Écoutez, c'était à la télévision, James Dean, quelques jours avant l'accident qui allait le tuer.
Ladies and gentlemen, James Dean. Hi, Jimmy.
Hi, Gay.
Nous avons invité Jimmy car c'est un coureur automobile, un vrai, pas un écervelé.
Jimmy,
beaucoup de jeunes nous regardent ce soir. J'aimerais ton opinion sur la conduite à grande vitesse sur l'autoroute. C'est une bonne question. J'ai souvent été très vite. J'ai pris des risques inutiles. Et puis j'ai commencé à courir. Et depuis, je suis très prudent sur l'autoroute. As-tu un conseil à donner aux jeunes gens qui conduisent? Allez doucement. La vie que vous sauverez pourrait être la mienne.
Incroyable ces mots de James Dean quelques jours avant sa mort. James Dean qu'on entend à la télévision là.
Oui, c'est prémonitoire, mais c'est-à-dire qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans les 6 derniers mois de sa vie, il a commencé à devenir pilote automobile, à disputer des courses, et il a même gagné des courses. Et donc, il a commencé à gagner l'estime aussi de ses concurrents, des pilotes professionnels, et il a même failli se tuer dans une course qu'il a disputée. En plus, il avait par contrat, il avait l'interdiction de disputer toute course pendant le tournage de Géant, parce que George Stevens, le réalisateur, se doutait bien qu'il y avait un risque colossal, et donc il l'a empêché. Et ce qui fait que quelques jours à peine après avoir fini le tournage de Géant, il a disputé une course, mais il n'a pas pu la disputer puisqu'il s'est tué avant de la disputer.
Il avait le goût d'ailleurs de aussi des corridas. Enfin, il aimait tout ce qui pouvait être violent et même dangereux.
Ah oui, non, mais c'est ce que je vous disais. Il avait une fascination pour le danger, pour la mort, qui est assez fascinante. Il a notamment fait une séance de photos dans sa ville natale avec un photographe de Life. Et il a tenu à un moment donné, ils sont allés dans une boutique de pompes funèbres et il a tenu absolument à poser dans un cercueil ouvert. Et ce qui est terrifiant, c'est que quand il est mort, il s'est retrouvé effectivement dans cette boutique de pompes funèbres. Et du coup, ces photos qui n'avaient pas été publiées à l'époque parce qu'elles avaient été considérées comme de très mauvais goût et tout ça, et ben on a fini par les diffuser.
Oui. Il est mort le 30 septembre 55 sur une route. Il allait à Salinas, je crois, justement assister ou participer à une course. Il roulait très vite, hein, je crois que 160 à l'heure. Mais en fait, il n'était pas responsable de cet accident. En fait, c'est un peu le hasard qui l'a tué.
Non, il roulait très vite. Alors, c'est vrai qu'il roulait beaucoup trop vite. Il y a un livre qui consacrait uniquement à son accident et dans lequel témoignent à peu près tous les gens qu'il a pu croiser sur la route dans les 10 derniers kilomètres. Donc, c'est assez intéressant. Et on se rend compte notamment qu'effectivement, il roulait très vite, effectivement. Mais en revanche, la voiture qu'il a percutée est une voiture qui n'a pas respecté une priorité. Donc en fait, il a continué à bien conduire.
Et qui, dit-on, c'était au crépuscule, n'a pas vu cette toute petite voiture, parce que la Porsche était très basse,
absolument,
une Porsche de course, et qu'il n'a pas vu cette voiture, et voilà, bon, c'est l'accident. Et alors tout de suite, c'est des scènes véritablement d'hystérie. Il avait déjà un fan club hein, dès le début, depuis un certain temps, mais enfin, il est très réduit, parce que personne ne savait qui il était, en dehors des gens qu'il croisait au théâtre. Mais alors là, ça devient vraiment du délire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui est devenu un véritable mythe? Je répète que quand il est mort, les Américains, et encore moins les Européens, mais les Américains n'avaient vu qu'un seul de ses films, et 6 mois avant à peine, c'est tout.
Ce qui a fait un mythe de James Dean, je pense, c'est la conjonction de sa mort avec la sortie de La Fureur de Vivre, très peu de temps après, et qui a donné lieu à des scènes d'hystérie absolue, parce que c'est la première fois que les gens qui avaient une vingtaine d'années voyait quelqu'un qui parlait comme eux à l'écran. Et en plus, c'était vraiment un film sur la rébellion. C'est-à-dire que les 3 personnages principaux ont des problèmes avec leurs parents, avec les adultes. Et donc, du coup, toute une génération s'est retrouvée représentée au cinéma et a commencé à dire, ça y est, enfin, voilà des films pour nous. Oui, mais c'est aussi, ça correspond aussi avec la naissance du rock'n'roll qui est à peu près contemporain.
Il faut rappeler, parce que aujourd'hui, c'est un rôle, disons, relativement courant, les rôles qu'a joué Dean. Mais il faut rappeler que quand même, depuis la naissance du cinéma, les jeunes premiers, c'était toujours des espèces de supermen, toujours souriants, bien dans leur peau, ripollinés, obéissants, etc. Il y avait un côté très moral. Et il est le premier, au fond, à avoir incarné ce en quoi la jeunesse s'est reconnue, c'est-à-dire la rébellion, le conflit avec les parents, des gosses mal à l'aise qui se sentent mal aimés. C'est le premier, je crois, à avoir fait ça. C'est Truffaut, d'ailleurs, qui le rappelait, ça.
Absolument. Il a la charnière, effectivement, du cinéma moderne. Puisque avant, effectivement, le cinéma considérait que les jeunes étaient un peu à l'image de Mickey Rooney dans tous les films qu'il a pu tourner avec Judy Garland. C'est-à-dire un brave garçon de famille qui est très gentil, le gendre idéal. Et lui a commencé à mettre des choses qui avaient été abordées par Marlon Brando, mais Marlon Brando n'a pas joué des rôles aussi jeunes. Donc il n'a pas eu à être confronté à ça. C'est-à-dire que c'est vrai que James Dean, lui, a joué des rôles où finalement il est adolescent. Il est plus jeune qu'il n'a l'air d'être.
Et surtout, il est resté. Au fond, encore une fois, je le disais au début, on n'imagine pas aujourd'hui à 74 ans. Ça aussi, ça a contribué un peu au mythe qui a duré un longtemps et encore aujourd'hui d'une certaine manière. Même si on n'a pas vu ses films, et Dieu sait, il n'en a fait que trois importants. Tout le monde sait qui est James Dean. C'est fabuleux, 50 ans.
Absolument, mais c'est assez étonnant parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très longtemps le cinéaste Alain Cavalier qui me disait, je lui parlais de James Dean et il me disait, c'est étonnant, il dit, parce que James Dean est né la même année que moi et pour moi, il disait, c'est mon double. Il dit, j'ai grandi en prenant James Dean comme un modèle, ce qui est étonnant de la part d'un cinéaste comme Alain Cavalier qui n'a absolument, a priori, rien à voir.
Admirateur du héros de la fureur de vivre ou de l'Est de l'Éden, dont sa partenaire à l'écran, Julie Harris, a eu un jour cette jolie formule sur laquelle nous allons nous quitter en parlant de Dean. Elle disait, 40 ans après sa mort, c'était une espèce d'étoile ou de comète tombée du ciel et dont on parle encore et dont on dit, tu as vu cette étoile filante.
I liken it to a kind of star or a comet that fell through the sky and everybody still talks about it. They say, ah, remember that night when you saw that shooting star?
Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui, Jean-Philippe Guérand, est l'auteur d'une biographie de James Dean qui paraîtra le 27 octobre prochain chez Gallimard. Vous êtes également l'auteur, Jean-Philippe Guérand, de Woody Allen, publié chez Rivage. À lire également James Dean, pour les 50 ans de sa mort, évidemment, beaucoup de publications, mais dont celle-ci, James Dean, l'homme, l'acteur, la légende, au fil de 300 photos privées, un très beau livre, richement illustré, de George Perry, et publié chez Michel Lafon. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, À l'Est d'Éden, d'Elia Kazan, et puis d'un documentaire, James Dean, Petit Prince, Petit Bâtard, de Werner Kohn et André Schaeffer, un document diffusé sur Arte la semaine dernière. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci Anne Le Guénec, Claire Tessert et Camille Pouget-Laguier et à la réalisatrice Anne Kobilac. Programme de la semaine prochaine, lundi, le jour où il sortira de prison, le plus ancien détenu de France, Lucien Léger. Mardi, les châteaux forts, mercredi, la perestroïka, jeudi, César Borgia, et enfin, vendredi, les grandes cérémonies à Rome, du temps des empereurs. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, vous êtes sur France Inter, il est 14h30, et vous avez rendez-vous avec Eric Oswald.
Merci Patrice Gélinet. Ça va partir.
Dégagez-moi cet abruti. Bon, ça...